With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère ! Ils sont au genre du pognon.
Merci. Vous laissez la star tranquille.
Des candidats majeurs qui pourraient être empêchés de se présenter à l'élection présidentielle, une possible fin de pandémie en Europe grâce à Omicron, ou encore les films sortis au cinéma qui arriveront plus rapidement sur Netflix, Amazon ou encore Disney+. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti, nouvelle semaine, on attaque sans plus tarder avec un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Certains candidats importants comme Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen, eh bien, sont en difficultés et ne sont pas 100% garantis d'être candidats, et ce alors que de nombreux Français seraient prêts à voter pour eux. Alors qu'est-ce qui bloque concrètement, et surtout comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être candidat à l'élection présidentielle? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour tout comprendre sur la polémique. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce que la candidature de certains candidats pour 2022 n'est pas si assurée, il faut d'abord revenir sur les conditions pour se présenter à la présidentielle. Et pour ça, on va prendre mon exemple par exemple. Est-ce que moi, Hugo, je pourrais donc me présenter là comme ça en 2022 à l'élection présidentielle? On va donc passer en revue les différentes conditions. Déjà, pour être président, il faut avoir plus de 18 ans. Là, c'est bon, j'ai 24 ans, donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il faut avoir la citoyenneté française et être inscrit sur les listes électorales. Il faut avoir fait sa journée d'appel et ne pas avoir été président deux fois. Ça, c'est bon aussi, j'ai pas été président de la République. J'étais président, vice-président du groupe de supporters du PSG Handball quand j'étais très jeune, mais donc ça n'a rien à voir. Jusqu'ici, tout va bien. Et je pourrais donc jusqu'ici être candidat pour l'élection présidentielle. Autre condition qui est quand même importante, il ne faut pas être inéligible. En gros, quand une personne est reconnue coupable de certains délits ou certains crimes qui concernent les élections, mais pas que, ça peut concerner de la corruption ou encore de la triche ou une tentative de triche, eh bien elle peut être condamnée à une peine d'inéligibilité, donc une période pendant laquelle eh bien cette personne ne peut pas être élue. Alors là encore, promis, j'ai jamais triché à aucune élection, pas même une élection de délégué quand j'étais au collège ou au lycée, donc tout va bien jusqu'ici. Mais l'élément qui est absolument majeur pour être candidat à l'élection présidentielle, et c'est là tout le débat et toutes les polémiques en ce moment, c'est que pour être candidat, eh bien, j'aurais besoin de parrainage. Il faudrait en fait que 500 élus, donc des maires, des députés, des sénateurs, etc., décident de donner leur signature pour eh bien, que je sois candidat à l'élection présidentielle, sachant qu'un élu ne peut donner qu'un seul parrainage, qu'une seule signature, et là, très clairement, eh bien, ça devient compliqué pour beaucoup. En effet, par exemple, pour un candidat comme Éric Zemmour, c'est pas forcément facile d'arriver à récolter ces 500 signatures puisque eh bien, son parti Reconquête est tout récent. Autrement dit, il n'a pas forcément beaucoup d'élus, il y a un ancrage local important, et donc c'est pas forcément évident de récolter comme ça 500 signatures d'élus locaux pour soutenir sa candidature. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui ces parrainages et ces signatures sont publics, c'est-à-dire que si un maire eh bien, accorde sa signature à un candidat, eh bien, on pourra le savoir publiquement. Et du coup, ça fait que certains candidats ont potentiellement plus de mal à récolter comme ça des parrainages, avec par exemple certains élus qui auraient peur de se faire juger s'ils parrainent des candidats comme par exemple Éric Zemmour. Du coup, c'est quelque chose qui fait débat avec certains candidats qui disent que eh bien, les parrainages devraient être secrets pour permettre aux élus de parrainer n'importe qui sans que ce soit public, alors qu'à l'inverse, eh bien, certains jugent que cette transparence est importante et que en tant que citoyen, on doit pouvoir savoir quel candidat a parrainé par exemple notre maire. Bref, Éric Zemmour est en difficulté en ce moment là-dessus. De la même façon, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas tout à fait pareil puisque son parti, son mouvement, la France Insoumise, a été fondé en 2016, mais il a relativement peu d'élus locaux, donc il a un peu de mal à récolter ses signatures. Même chose pour Marine Le Pen, qui a aussi assez peu d'élus Rassemblement National aujourd'hui au niveau du territoire, en tout cas par rapport à d'autres partis plus traditionnels. Et donc ça mène à une situation assez paradoxale avec des personnalités comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas certains de pouvoir être candidats aujourd'hui à l'élection l'élection présidentielle. Et à l'inverse, on a d'autres candidats, comme par exemple Anne Hidalgo, qui est donc la maire de Paris et candidate du Parti Socialiste, qui est certes aujourd'hui dans les sondages très très bas, elle est à moins de 5% dans les derniers sondages, mais qui pour autant n'a aucune difficulté à être candidate à l'élection présidentielle, puisque eh bien, il y a beaucoup de maires et d'élus locaux qui sont au Parti Socialiste et qui donc soutiennent Anne Hidalgo. Par ailleurs, une autre critique qui est faite à ce système de parrainage des 500 signatures qui doivent être récoltées sur tout le territoire, c'est que les citoyens sont exclus, en gros ils peuvent pas apporter leur soutien directement à un candidat avant le vote. Et du coup, la France Insoumise, par exemple, propose un autre système. L'idée, ce serait de permettre eh bien, aux citoyens eux-mêmes de parrainer des candidats. Et en gros, il faudrait 150 000 parrainages de citoyens pour qu'un candidat puisse se présenter. Par ailleurs, une autre proposition de solution, c'est celle de François Bayrou, donc le président du MoDem, qui est un parti centriste, qui veut créer une banque de parrainage où en gros, des maires pourraient donner leur parrainage à un candidat qui en a besoin sans forcément eh bien, que ça veuille dire qu'il soutiendrait le candidat ou quoi que ce soit, mais que simplement il juge que c'est logique et cohérent que eh bien, tel ou tel candidat soit candidat à l'élection présidentielle en raison de son poids aujourd'hui en France. Bref, il y a donc plusieurs propositions d'amélioration de ce système-là. Les candidats ont en tout cas jusqu'au 4 mars pour récolter leurs 500 signatures. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient déjà dans cette difficulté en 2017, mais ils avaient finalement réussi à avoir leurs 500 signatures. Quant à Éric Zemmour, donc bah là en l'occurrence c'est la première fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il revendique déjà plus de 300 parrainages. Il semble donc plutôt bien parti pour réunir les 200 parrainages restants jusqu'en mars. Mais quand même, donc, faut être vigilant et on va voir tout ça dans les prochains jours. Par ailleurs, eh bien, la question se pose pour plein d'autres candidats qui sont peut-être moins hauts aujourd'hui dans les sondages, mais qui veulent quand même être candidats à l'élection présidentielle. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Et quant à moi, je préfère quand même le dire, non, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. C'était plus pour l'exemple. Mais évidemment, ça, vous le savez, par contre, je vous tiendrai au courant et on fera en sorte de vous informer. Dès cette semaine, d'ailleurs, a priori, il y a le début de la diffusion des décryptages des programmes pour l'élection présidentielle et les interviews aussi qui vont venir dans les prochaines semaines. Alors, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première actualité majeure, ce sera très rapide. Ce lundi, le pass vaccinal rentre donc en application en France. Il devient obligatoire pour toutes les personnes de plus de 16 ans pour accéder à de nombreux lieux. Concrètement, hein, bah, pour aller au restaurant, cinéma ou encore dans les stades, il faut désormais être complètement vacciné avec toutes les doses de rappel. Pour éviter les fraudes, un document officiel pourrait être demandé pour prouver son identité dans les lieux où le pass vaccinal s'applique. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mets un petit lien en description. On a déjà eu l'occasion de beaucoup en parler et de voir beaucoup le débat autour de tout ça dans les derniers jours. Deuxième actualité, c'est un hommage. Un soldat français de 24 ans, le brigadier Alexandre Martin, est décédé ce samedi au Mali lors d'une attaque de terroristes djihadistes contre une base militaire située à Gao, dans le centre du pays. C'est le 53e militaire français tué au Mali depuis le début de l'engagement français militaire sur place en 2013. Un engagement qui a pour but notamment de lutter contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. A noter que cette attaque a eu lieu dans un contexte de plus en plus tendu pour les soldats français qui sont présents sur place et qui sont particulièrement ciblés en ce moment au Mali. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Mais ça semblait donc essentiel de vous parler aujourd'hui, de rendre hommage donc à ce soldat français, le brigadier Alexandre Martin, qui est décédé ce samedi. On continue avec une troisième actualité qui se passe toujours en Afrique, dans un pays d'ailleurs frontalier au Mali, mais il s'agit du Burkina Faso, où le président Rochemark Christian Kabore et plusieurs ministres ont été arrêtés par des soldats qui ont en fait visiblement décidé de se rebeller contre le pouvoir en place. En fait, ce ras-le-bol des militaires, il est lié à la difficulté pour les autorités de contenir les violences dans le pays, et notamment le terrorisme qui est très présent, qui a fait plus de 2000 morts depuis 2015 au Burkina Faso. Le coup d'État a en fait été officialisé ce lundi soir à la télévision nationale par les militaires qui ont affirmé avoir pris le pouvoir dans le pays. De son côté, le parti du président a dénoncé, je cite, une tentative avortée d'assassinat du chef de l'État. Bref, la situation est très tendue et évidemment, on va continuer à suivre tout ça dans les prochaines heures. Quatrième actualité, encore une actualité internationale. Décidément, c'est très chargé aujourd'hui. La situation entre l'Ukraine et la Russie devient de plus en plus tendue, à tel point que eh bien, les États-Unis et le Royaume-Uni ont ordonné aux familles de diplomates installés en Ukraine de quitter l'Ukraine. La raison, c'est que eh bien, les États-Unis et l'Union européenne craignent une potentielle attaque russe contre l'Ukraine dans les prochains jours, avec par exemple potentiellement potentiellement une invasion. De son côté, la France a déconseillé les voyages en Ukraine qui seraient non essentiels. Et au-delà de ça, les pays membres de l'OTAN, donc cette organisation militaire qui réunit plusieurs pays occidentaux et qui est menée principalement par les États-Unis, ont également envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est. Et ce, eh bien, alors qu'en face, du côté russe, il y a des milliers de soldats russes qui sont massés depuis 3 mois à la frontière avec l'Ukraine. C'est donc une période de tension très très forte entre d'un côté eh bien, la Russie et de l'autre côté les forces occidentales et notamment l'Union européenne et les États-Unis. On va continuer évidemment de suivre la situation, c'est un sujet qui est absolument majeur en ce moment en Europe. On continue avec une 5e actualité, c'est potentiellement une bonne nouvelle concernant le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé en effet estimé que la fin de la pandémie en Europe était, je cite, plausible avec ce variant Omicron qui est maintenant présent vraiment sur le territoire et qui devrait en fait contaminer 60% des Européens d'ici mars selon l'OMS. Alors il y a plusieurs raisons à cela qui font que eh bien, une sortie de crise était plausible. Il y a d'abord le fait qu'il y a un fort taux de vaccination en Europe. Il y a aussi le fait que Omicron a contaminé énormément de gens et donc du coup ces gens-là vont être immunisés pendant quelques mois. On peut noter aussi le retour des beaux jours qui fait que les gens seront moins souvent à l'intérieur, qui seront plus souvent dehors, et donc c'est des lieux où le virus eh bien, peut se propager moins facilement. Et enfin, eh bien, on peut noter le fait que le variant Omicron, selon les premières études, eh bien, présenterait moins de formes graves que les autres variants jusqu'ici. Tout ça donne donc un horizon plutôt positif pour l'Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé, et on aura l'occasion d'en reparler évidemment dans les prochains jours. Ça fait plaisir, faut parler des bonnes nouvelles, y compris quand elles concernent le Covid, heureusement, et donc on en reparlera dans les prochains jours. Alors la 6e actualité, elle va surtout intéresser les fans de cinéma. Faudra désormais attendre moins longtemps pour voir en streaming des films qui sont sortis au cinéma récemment. En effet, d'après le journal L'Opinion, un accord aurait été signé ce lundi entre des professionnels du cinéma et les diffuseurs. En gros, les films pourront être sur Canal+, 6 mois après leur sortie au cinéma, contre 8 mois aujourd'hui. Ils pourront être aussi sur Netflix 15 mois après leur sortie au cinéma, contre 36 mois aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai changement. De la même façon, ils pourront être sur Disney+, ou encore Prime Video, 17 mois après leur diffusion au cinéma, contre 36 mois là aussi aujourd'hui. Et concernant les chaînes de télévision comme TF1, France 2 ou encore Arte, là en l'occurrence ça ne change pas, ce sera 22 mois après la diffusion au cinéma que ça pourrait être diffusé à la télévision. Mais ils ont quand même réussi à négocier ce qu'on appelle une exclusivité de diffusion jusqu'à 36 mois. Ce que ça veut dire, pour faire vraiment très simple, c'est que quand un film passera sur une chaîne gratuite comme TF1 ou France 2, eh bien ce film devrait être retiré des plateformes de streaming. Mais donc, ce que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias en France. Là donc, elle va évoluer, c'est une évolution majeure, puisque ça veut dire donc qu'il y aura moins de délais entre la diffusion au cinéma et la diffusion notamment sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
L'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.